Reportage saisi en fin d'audience ce lundi avec Sébastien Béraud, Serge Deschamps et Maître François Dangléan. Ce reportage reflète l'état d'esprit des personnes incriminées et de leur avocat. Alors, il y a un peu de colère des paysans qui sont mis en cause, leur incompréhension face à certaines décisions nationales. Ces agriculteurs ne manient ni langue de bois ni politiquement correct, ils parlent fort, ils parlent vrai. Voici leur état d'esprit, l'état d'esprit de très nombreux agriculteurs. En plus, ils nous alertent sur des dangers qui peuvent nous menacer. Nous avons donc estimé pertinent de leur laisser le micro ouvert. Voici donc cet entretien réalisé lundi 3 novembre 2025 à la sortie du tribunal de Périgueux. RLP 102.3 dans les studios à Coulommiers-Chamiers. Nous avons aujourd'hui avec nous Sébastien Béraud, Serge Deschamps, Maître François Dangléan. Il y a eu une affaire jugée aujourd'hui à Périgueux, un problème quelque peu médiatique qui concerne l'agriculture, nos agriculteurs français et locaux. Monsieur Sébastien Béraud, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Je vous en prie, alors dites-nous, pourquoi étiez-vous convoqué aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, c'était le procès un peu de la honte. Ben, j'ai défendu Serge à sa demande, il y a à peu près un an, il m'a téléphoné. Donc je l'ai écouté, beaucoup de social, et j'ai fait monter un peu cette histoire en épingle nationale, parce qu'il n'était pas écouté, il n'avait aucun soutien. Et je me suis un peu emporté sur les réseaux sociaux, parce qu'à un moment donné, ben, quand vous en avez ras-le-bol, vous pouvez dire des mots qui dépassent vos pensées. Mm-hmm. Donc j'ai eu 9 heures de garde à vue, et suite à ces 9 heures de garde à vue, ben, j'ai eu un procès contre ceux que j'ai attaqués, c'est-à-dire le président de la Chambre d'agriculture, M. Dumort, le marchand en question, M. Durand, et bien entendu la préfète qui a ordonné. Donc j'étais aujourd'hui en procès. Et ce qui était un peu fou, c'est qu'on avait d'un côté mes soutiens, à peu près une centaine, beaucoup d'agriculteurs, dont des CR régionales. Et puis de l'autre côté, on avait les soutiens de M. Dumort, Chambre d'agriculture CR, nouvellement élu. Donc c'était un peu le procès de la honte, les agriculteurs contre moi. Mais voilà, on s'est bien défendu, on a fait ce qu'on avait à faire.
Donc on va réexpliquer. Serge Deschamps. Serge, bonjour.
Bonjour.
Bonsoir. Donc, vous, en fait, il y a quelque temps, vous avez eu un troupeau, vous êtes éleveur, vous avez eu un troupeau, certaines bêtes ont été malades, on vous a abattu le troupeau, si je me souviens bien, et Sébastien est venu vous aider, et en fait, tout part de là.
Oui, tout à fait. Je suis agro-cultivateur, et du coup, depuis 16 mois, je ne cesse de me battre contre l'enlèvement de mes bêtes, mais ils sont parvenus le 18 dernier à enlever les 14 dernières bêtes sur les 45 au total.
D'accord. Et donc là, Sébastien Béraud a fait appel à Maître François Dangléan qui est avec nous ce soir. François, bonsoir.
Bonsoir à tous. Écoutez, effectivement, Sébastien Béraud m'a demandé d'intervenir pour obtenir sa relaxe, puisqu'il est accusé dans des conditions tout à fait anormales et scandaleuses. Il est poursuivi pour des affaires de diffamation et d'injure, alors qu'il n'y a pas de plainte préalable. Donc s'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'action. Là, on se moque carrément du monde, et le procureur a demandé au tribunal de le condamner dans une procédure qui est entièrement frauduleuse.
C'est que je comprenne bien, en fait. Quand je comprenne bien, Sébastien est allé aider Serge et il a eu des mots doux à l'égard de certaines personnes. Qu'est-ce qui s'est passé?
Dans mes vidéos, je suis monté un peu en pression, parce que moi, tous les jours, avoir Serge au téléphone, souvent en train de me dire, si ça continue, je vais mal finir, je vais me pendre à la branche de l'arbre qu'il y a devant chez moi, moi je ne pourrais plus le supporter. Donc à un moment donné, j'ai dit stop. Donc Serge, il a fait une grève de la faim, il y a eu une VAD qui s'est mise en place, on a fait monter tout ce sujet au niveau national. D'ailleurs, j'ai été contacté par le GDS national en nous remerciant, on voulait faire changer ce protocole. Donc il a été reçu en préfecture, on a reculé un peu l'enlèvement, et ils ont fini par lui les enlever. Mais au final, moi j'ai dit des mots que je ne croyais pas qu'étaient interdits de dire en France.
Donc en fait, le problème, c'est que vous êtes passé déjà en tribunal jeudi dernier pour un commentaire sur TikTok, et aujourd'hui on vous fait venir parce que vous avez dit quelque chose dans une vidéo. C'est bien ça, voilà. François, tu confirmes?
C'est ça, des propos qui ont été jugés d'une part outrageants, d'autre part diffamatoire et encore injurieux.
Alors les propos, qu'est-ce que c'était?
Monsieur Dubon est un collabo, un truc comme ça, non?
D'accord, donc c'est même... Oui, d'accord, ok. Donc pour avoir dit ça dans une vidéo, il s'est retrouvé, convoqué... Donc c'est intéressant. Non, il faut quand même le dire, d'accord. Bon, et donc Maître François Dangléan a plaidé, et a plaidé, visiblement, il y a des problèmes de forme par rapport à la plainte en elle-même.
Exactement. pour engager une procédure au visa de la loi sur la presse, diffamation ou injure, il faut déposer une plainte avec constitution de partie civile dans les règles de l'art. Le doyen des juges d'instruction fixe le montant d'une consignation, et quand on a payé la consignation, la procédure est engagée. Voilà, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de consignation, il n'y a rien. C'est le procureur Édouard-Jacques Andrault qui a donné un passe-droit ou un passe-gauche d'une part à M. Dumort, d'autre part à M. Jérôme Durand, et puis d'autre part à la préfète, Madame Marie Aubert ou Aubrette, un truc dans ce goût-là.
Oui, Aubert.
Aubert, voilà.
D'accord. Pourquoi, je voudrais comprendre, je suis béotien, je ne suis pas dans ce genre de choses, qu'est-ce que la CR24 était là? Pourquoi est-ce qu'ils étaient là aujourd'hui? Qu'est-ce que la CR24 et qu'est-ce qu'ils vous reprochent?
Parce qu'en fait, le président de la Chambre d'agriculture, M. Dumort, que j'ai un petit peu soufflé dans les branches, parce qu'il brasse beaucoup d'air, mais il ne fait pas grand-chose, ils sont venus le soutenir, parce que la CR24, il était président de la CR24, et il vient de gagner les élections Chambre d'agriculture avec la CR24, donc c'est pour ça qu'ils étaient là. Mais en fait, moi j'aurais cru qu'ils auraient été des centaines, puisqu'il a été élu président de la Chambre d'agriculture de Dordogne et représentant beaucoup d'agriculteurs. En fait, il représentait presque son nombre, parce qu'ils étaient très peu nombreux. Nous, on connaît, moi j'avais des gars de la CR qui sont venus, et ils n'ont pas voulu aller avec les autres, parce qu'ils trouvent que c'est le procès de la honte. Un président de Chambre d'agriculture qui porte plainte contre un agriculteur, et que ça fasse autant de bruit, alors qu'au final, il n'y a rien du tout, c'est des histoires de mots. Moi, quand je vois qu'il y a 5000 affaires judiciaires qui sont en attente d'être jugées par manque de place, des vols, des viols, des trafics de drogue, ils n'ont pas de place. Et moi, j'ai 2 procès en 3 jours ouvrés. Donc, à un moment donné, ils veulent me faire taire, il y a un problème. Et j'ai fait quoi? J'ai personne tué, j'ai un casier judiciaire.
Qui a porté plainte? C'est l'État et la préfète ou c'est la CR24 qui a porté plainte?
C'est le président de la Chambre d'agriculture, sans demander au conseil d'administration s'ils pouvaient porter plainte. Ça se trouve qu'ils n'auraient peut-être pas voulu, les autres, on ne sait pas. Hein, ouais. Parce que j'ai dit la vérité, ils n'ont rien fait. Ouais. Après, il y a le marchand que j'ai dit qu'il avait collaboré, à un moment donné, si on ne peut pas dire les choses, maintenant, il ne faut plus dire collaborer, il faut dire qu'il a la complice.
Il a coopéré.
C'est
une connotation différente.
Moi, vous savez, quand j'étais jeune, je discutais beaucoup avec mes grands-parents, parce que j'étais toujours dans leur jupon, et ils avaient été outrés de ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre la même époque. Un gars qui est payé pour aller enlever des vaches et qui va, Serge pourra vous le dire, les payer une misère. Moi, ça me rappelle les gens qui conduisaient les camions pour aller au Switch, et c'était pas de leur faute. À un moment donné, on peut toujours refuser.
Bien sûr. Alors, derrière tout ceci, il y a un problème dont on entend parler, mais on ne connaît pas forcément les détails. C'est bien, on pourra l'aborder ce soir. C'est le problème des abattages massifs. Vous êtes agriculteur, vous élevez des animaux, vous élevez des vaches. Et puis, on entend ici et là, on a abattu 400 canards, 200 vaches, 100 moutons. C'est un peu ce genre de choses. Et la réalité derrière, en fait, qu'est-ce qui se passe exactement depuis un an et demi là? Expliquez-nous.
On travaille la peur au ventre parce que toutes les années, ils nous trouvent des nouvelles maladies. L'année dernière, c'était la fièvre catarrhale pour les moutons. Dans les volailles aussi, il faut toujours être en train de les affermer, il y a la grippe aviaire. Après, là, en Dordogne, sud-ouest, c'est la tuberculose. En Haute-Savoie, c'est la dermatose. Il y a toujours quelque chose. On se pose des questions.
Après, c'est bien de regarder l'état sanitaire des animaux. Je veux dire, ça, c'est pas critiquable. Mais
comme la tuberculose, on nous dit que c'est grave, ça peut se passer à l'humain. Toutes les vaches, j'ai été voir 2 ou 3 agriculteurs, c'est des centaines de vaches qui ont été abattues, elles sont toutes rentrées dans le circuit de commercialisation. Donc on nous dit que ça risque de passer aux humains, et on l'a fait manger aux humains. Donc,
alors, ça aussi, je voudrais savoir, ça, je voudrais comprendre. J'ai entendu beaucoup de choses devant le tribunal aujourd'hui. Vous avez des bêtes, ils viennent, ils vont en trouver 1 ou 2 qui ont des symptômes, ils vont abattre tout le cheptel, ils vont vous donner une indemnité qui est très très basse, et vous êtes sûr que les bêtes, on s'implique là, vous êtes sûr que les animaux repartent dans la chaîne alimentaire?
Pour la tuberculose, oui. La DNC, non. Elles partent à l'écarissage.
D'accord.
Mais pour la tuberculose, c'est sûr qu'elles repartent. Et c'est là où c'est le scandale d'État.
Ben oui, parce qu'on n'est pas en train de faire une vente forcée à un tout petit prix, là, pour fournir...
Si. Oui, exactement. En fait, toutes mes vaches ont été payées par le marchand au rabais. 500 euros de moyenne par tête.
Alors que vous, vous les auriez vendus combien, normalement, sur le marché?
De toute manière, ce n'était pas à vendre.
Ouais. Et en plus, si elles avaient été à vendre,
C'est de l'ordre, ça dépend de la carcasse, hein. Si c'est des vaches, si c'est des broutards, si c'est des... je ne sais quoi, enfin, chaque...
2000 euros, le volet.
Voilà. Et du coup...
C'est intéressant de dire ça aussi, quand
oui.
même. Hein. C'est
parce qu'en fait,
des vaches qui ont une valeur de 2000, on vient, on vous donne 500 balles et puis on les envoie à McDo.
Ouais, mais
quelque part, il y a un problème là.
Ce qui est grave, c'est que le marchand il va lui dire, mais on te les paye au rabais parce que l'État, les impôts des Français vont te payer la différence.
C'est ça.
C'est ça qui est grave.
Mais est-ce que les...
qui c'est qui se remplit les poches? C'est le marchand. Et après, on m'accuse.
Les abattoirs surtout. Donc, parce qu'en fait, les abattoirs sont à vivre de barbac et donc ils ont besoin de. Davantage de fournitures pour faire travailler leur personnel et du coup leur chaîne d'abattage, leur chaîne de transformation. Et plus il faut abattre de bêtes, moins il reste de bêtes sur le marché. Donc ils vont devoir fermer certains abattoirs à cause de ça. Sachant qu'une vache, elle met bas une fois par an, c'est comme une femme, hein, c'est 9 mois de gestation. D'accord. Donc il n'y a qu'un veau par an. Plus ils abattront, moins il y aura de bêtes sur le marché.
Oui, mais le problème, c'est qu'ils les font venir de l'étranger maintenant. C'est pour ça qu'ils veulent signer le Mercosur. Ouais. C'est pour ça qu'ils font rentrer beaucoup de volailles, tout ça, d'Ukraine. On envoie de l'argent en Ukraine pour des bombes, et puis eux, voilà. Ils nous... Voilà. La situation est dramatique.
On va l'évoquer. Mais je voulais, là, un petit peu évoquer ce problème d'abattage, effectivement, des bêtes. Là, on a un exemple flagrant. Et puis, il n'y a pas que l'aspect économique. On lui a... abattu tout son cheptel, on l'a indemnisé. Dans l'indemnisation, elle arrive maintenant ou elle arrivera plus tard? Il y a un délai ou...
Alors, le marchand m'a indemnisé mes bêtes 3 semaines après chaque enlèvement. D'accord. Sachant que mes bêtes ont été enlevées en 3 étapes. Le 5 novembre 2024, le 5 juin 2025 et le 10 juillet 2025.
D'accord, voilà. Ça s'est passé en 3 fois. Ils vous ont déjà payé à ce jour-là, toutes vos bêtes?
Oui, le marchand m'a payé à chaque fois, ouais, 3 semaines après.
Chaque
enlèvement, au maximum. Hein. Donc, j'ai été payé par le marchand. Donc, les vaches sont abattues, elles sont pesées, ça fait tant de poids de carcasse, à tant d'euros le kilo, par tranche de qualité.
Et est-ce que c'était des vaches qui étaient destinées à être abattues, ou est-ce que c'était des vaches qui étaient laitières, avec qui vous aviez une relation? Expliquez-nous
voilà,
un peu.
Je fais de la vache allaitante en production biologique de plein air, et donc elles n'étaient pas destinées à être abattues, puisque la vache allaitante, c'est pour élever des jeunes broutards.
C'est des vaches pour élever des veaux, en fait, pour que je comprenne. Ouais. C'est comme une pouponnière, en fait. C'est
un petit voilà, peu... D'accord. Exactement. Les vaches, elles mettent bas, elles élèvent leurs veaux au champ, selon les saisons, et donc le veau, il... tête le lait de la mère et il package comme la mère au fil de son développement.
Votre modèle à vous, c'était d'avoir un cheptel et de proposer en fait à des veaux nouveau-nés en fait d'être allaités. C'est ça que vous faisiez, vous?
Ouais.
C'est pas du tout de la viande pour hamburger.
Ah non.
Et du jour au lendemain, on a débarqué et on vous a trucidé combien de vaches?
Un nombre de vaches, c'est presque une trentaine, et après, le reste, c'est des broutards jusqu'au petit veau de 3 semaines.
D'accord, ça va être un choc quand même, là.
Ben, c'est choquant. Moi, j'ai vu, ils m'ont enlevé des vaches.
Non, mais c'est important de le dire, ça aussi. Il y a le côté économique, il y a le côté fonctionnel, ça ne correspond pas à son modèle commercial.
C'est ça. Et moi, quand ils m'ont abattu les vaches en diagnostic, les 2 premières vaches, ils m'ont laissé les veaux sur ma ferme. J'ai dû me débrouiller à les allaiter avec du lait en poudre. Et malheureusement, les veaux n'étaient pas destinés, ils n'aimaient pas le lait en poudre.
Et quand c'est comme ça, il faut reconstruire en plus le cheptel de vache. Il va falloir les faire grandir jusqu'au moment où elles soient assez grandes pour pouvoir allaiter à nouveau, pour pouvoir tout recommencer. Je ne sais pas si c'est l'argent qu'ils vous ont donné qui va suffire à faire ça. Donc là, ils vous ont un peu mis en danger quand même, non?
Tout à fait. En fait, ils ont pris les vaches et ils m'ont laissé pour compte.
Donc, faites comment maintenant avec votre boîte, vous? Vous avez une société où vous vivez, vous organisez.
Voilà, mais
comment vous faites après?
Ben, je dois me débrouiller avec mes moyens. Et surtout, ils ne m'accompagnent pas, contrairement à ce qu'ils disent dans les médias qu'ils allaient accompagner l'éleveur. Non, moi, je ne vois personne. Je dois me débrouiller seul.
Ok. Juridiquement, François d'Angléan, maître d'Angléan. Là, par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à Serge, juridiquement, c'est normal ce qu'on lui a fait ou pas ?
Ça me paraît un peu excessif, puisque pour les mêmes problèmes sanitaires, en Algérie et en Tunisie, on a tué que 4 à 5% des troupeaux, les animaux qui posaient problème, pas tous les animaux. Et c'est la contestation qui a été formulée par Sébastien Béraud, qui a dit mais on n'a pas besoin de tuer tous les animaux. Et au final, les services de la préfecture ont changé leur position. Et ils ont effectivement, grâce à Sébastien Béraud et à son action, ils ont décidé de ne plus abattre tous les troupeaux. Mais en attendant, chez Serge, on lui a massacré son troupeau. Voilà, il n'y a plus rien.
Je trouve que c'est quand même une grande victoire parce qu'on est arrivé à faire bouger les lignes. Et ça, c'est pas Sébastien Béraud, c'est surtout Serge qui a tout fait pour reporter l'échéance. Et à force d'être médiatisé, de monter cette vade, ces gens qui ont occupé son terrain pour empêcher de faire partir ses vaches, la grève de la faim, il a été reçu en préfecture. Bon, j'y ai mis le paquet derrière pour le propulser, pour qu'il passe sur les médias indépendants. Mais c'est une victoire, peu importe le résultat du. Si on peut éviter que des agriculteurs perdent tous leurs troupeaux, parce que c'est une perte financière, mais c'est surtout une perte sentimentale. Il y avait des vaches que c'était sa mère qui les avait élevées, que c'était des descendances sur plusieurs générations. C'est sa famille, Serge, il n'a rien plus. Il lui reste que les yeux pour pleurer. Donc je trouve qu'il le savait, tout ça. Je pense que. Au niveau de la MSA, tout ça, tout ce qui est para-agricole, on fait vivre beaucoup de monde. Il pourrait venir le voir pour lui demander si ça va, si il arrive à survivre. Des fois, il ne faut pas grand-chose, un coup de fil.
Il y a une intervention de l'État, mais une grande brutalité quand même, ouais, c'est ça c'est...
Oui. Ouais. Moi, je trouve que c'est la façon dont ils ont agi, sans l'avertir le jour avant. Vous imaginez, dormez tranquille le matin, un drone qui vient vous filmer pour vous voler vos vaches, à un moment donné... Si j'ai utilisé
Qu'est-ce
des propos...
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de drone, là ?
Ah ben oui, il faut que Serge l'explique.
Donc voilà, sur trois reprises. Alors la première, le premier enlèvement de mes bêtes, elles ont été faites un peu... j'ai laissé partir, je n'ai pas cautionné, je ne leur ai pas envoyé, mais j'étais un peu pris de court... Et donc, j'ai laissé partir l'abattage sélectif, donc la moitié du troupeau en premier. Donc, les plus vieilles vaches en allant vers les plus jeunes et tous les broutards que je souhaitais éclaircir, en gros. Mm-hmm. Ensuite, ils sont revenus parce que je ne voulais pas faire abattre le reste sous prétexte que il y a les analyses... était farfelu. Il y a eu de la maladresse sur les propos des services sanitaires, où ils m'ont dit que l'abattoir de Limoges, donc le vétérinaire de Limoges, me dit que j'ai une vache, la plus vieille, qui présentait une infiltration séreuse du tissu conjonctif, mais sans rapport avec la tuberculose. Donc il me dit, vous inquiétez pas, c'est rien de grave. L'après-midi même, j'ai le service sanitaire de Périgueux qui m'appelle en disant, Monsieur Deschamps, vous avez une vache, la plus vieille, qui présente 4 lésions fortement excrétrices de tuberculose. J'ai dit, monsieur, je suis désolé, c'est pas ce que m'a dit l'abattoir. Donc là, j'ai des doutes. Donc du coup, je souhaite, pour ça, voilà pourquoi aujourd'hui, se questionner sur le fait que je résistais à l'enlèvement de mes bêtes. C'est tout simplement que encore aujourd'hui, j'ai des doutes que mes bêtes étaient réellement malades. Surtout que le service sanitaire de Périgueux me disait au préalable, si on retrouve la tuberculose chez vous, ça serait sur la plus vieille. Étonnamment, c'était la plus vieille qui était impactée. Voilà. Ensuite, donc, pour l'histoire de drone, il s'avère que, comme je ne voulais pas faire partir mes bêtes, ils ont pris la méthode... militaire. Donc ils sont venus la veille avec un hélicoptère pour contrôler puisqu'ils avaient information qu'une vade s'était installée dans mon terrain, donc ils sont venus contrôler par hélicoptère. Le lendemain matin à 6h15, un drone survole ma chambre et là j'ai les tripes en boule. J'ai dit, ça y est, ils interviennent. Effectivement. Après, c'est donc une cinquantaine de gendarmes qui sont venus avec 7 agents de la DSV et le marchand qui était 7 ou 8 aussi. Il y avait le sous-préfet, les deux sous-préfets.
Parce qu'en fait, vous aviez un petit peu résisté, vous ne vouliez pas, vous étiez contestataire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pour ça ?
Oui, la résistance, c'est simplement que mes vaches n'étaient pas malades, puisque en fait, ils voulaient enlever mon troupeau, parce que j'étais certainement nuisible. Et comme j'avais eu une histoire avec les services de l'État concernant mes chiens, ils l'ont dit clairement. Donc, ils voulaient, en plus d'avoir enlevé la moitié de mes chiens, juste avant, ils voulaient détruire mon troupeau de vaches, en fait.
Et... Juste pour savoir, la tuberculose bovine, elle se transmet aux humains, c'est dangereux ? Il y a des raisons qu'on soit vraiment aussi radical ? C'est un danger sanitaire ?
Apparemment, c'est ce qu'ils nous disent.
Je voudrais une réponse, moi, parce que si c'est dangereux...
Je ne suis pas scientifique, mais je pense que les bêtes qui sont positives et qui sont vraiment la tuberculose, c'est peut-être pas plus mal de les isoler et de les tuer. Mais de là à tuer tout le troupeau et de le faire consommer à l'humain, alors qu'on nous dit que c'est susceptible d'être dangereux, il y a un flou total.
Ouais, là, on ne comprend pas. Là, on ne comprend pas.
Et c'est ça qui est dramatique. On a l'impression qu'ils veulent faire disparaître l'élevage pour le remplacer par de la viande cellulaire et de la viande qui va venir de l'autre bout du monde et de la viande qui peut-être qu'aura la tuberculose ou peut-être qu'aura des... Et c'est sûr qu'ils auront des hormones.
Sébastien Béraud, j'ai regardé sur Internet et autres, vous êtes une personnalité, vous vous engagez, vous avez une page TikTok, vous intervenez régulièrement. On entend parler d'un syndicat. Qui est Sébastien Béraud ?
Sébastien Béraud, c'est un alerteur parce que j'ai connu les problèmes de Serge, moi, en 2022. Je suis tombé au fond du trou.
Vous êtes agriculteur, vous aussi ?
Ah oui, je suis agriculteur. Moi, je suis en société avec deux associés, mon fils et un autre. On a 300 vaches à la maison. J'ai suffisamment de travail, 200 hectares. Mais moi, en 2022, j'ai failli tomber au fond du trou. J'ai failli mettre la corde autour du cou. Je ne l'ai pas fait, fort heureusement. Nous, on avait des problèmes d'antibiotiques sur notre exploitation récurrente depuis 3 à 4 ans. Et à des moments donnés, on n'avait aucune vache qui était sous antibiotiques. Et on a fait des tests, on s'est aperçu que toutes nos vaches étaient positives. Donc, on s'est rendu compte. Donc, j'ai fait une lettre à l'époque au ministre de l'Agriculture, qui était M. de Normandie. J'ai été reçu en préfecture. Et il s'est avéré que j'étais victime, parce que déjà, j'étais sur les réseaux sociaux. Je m'attaquais beaucoup à la FNSEA. J'ai été victime de mettre des antibiotiques dans la ration des vaches, d'où l'intérêt que tout le monde avait des antibiotiques. Sauf qu'au bout d'un moment, à force d'avoir du lait aux antibiotiques, ce qui est anormal et c'est interdit, ma fromagerie ne voulait plus récolter mon lait, ne voulait plus ramasser mon lait. Donc moi, j'étais en situation de catastrophe, parce que nous, notre lait, c'est 98% de notre revenu. C'est même pas notre revenu, c'est ce qui nous va nous permettre de payer nos emprunts, nos bâtiments, notre matériel. Donc moi, je dormais plus la nuit, je cauchemardais, j'avais des idées noires, et je suis arrivé à remonter cette pente. Et c'est d'où maintenant mon travail, presque, alerteur, travailleur comme ça. Je me mets à la place des agriculteurs comme Serge et bien d'autres. Depuis que je suis sur les vraiment à fond là-dedans, depuis que mon fils est venu dans l'exploitation, on est 3, j'ai un peu de temps. J'ai défendu déjà une centaine d'agriculteurs. J'ai sauvé énormément d'exploitations en faisant des cagnottes en ligne, en les mettant en relation avec la MSA nationale pour trouver des échéanciers. Parce que moi, je l'ai vécu. Le problème de l'agriculteur, c'est que quand on n'arrive pas à payer ses factures, déjà... On n'a plus de vie de couple, on n'a plus de vie de famille, on se sent isolé, repoussé par la société, et on ne veut pas en parler parce qu'on ne veut pas être jugé. Ça, c'est ça qui est grave. Donc qu'est-ce qu'il arrive ? 9 fois sur 10, les agriculteurs, ils mettent la corde et ils vont se suicider, ils se pendent. Et moi, j'en ai marre d'aller à des enterrements d'agriculteurs qui se sont pendus, donc j'ai dit stop. Donc, maintenant, les gens, ils le savent, quand ils ont des soucis, ben, ils m'appellent, comme Serge, et plein d'autres. Tous les jours, j'ai quasiment du monde qui m'appelle. Des fois, rien que le fait de me discuter, de faire du social, de ne pas se sentir seul, des fois, il y en a que ça leur soulage parce qu'ils sont tout seuls. C'est ça qui est grave, là. Le fait d'être seul.
Ce bruit de syndicat, c'est une rumeur ou c'est vrai ? Est-ce que vous allez monter un syndicat pour agriculteurs ? On voit ça sur les réseaux.
Non, je pense pas.
C'est une rumeur, c'est juste un bruit.
Oui, parce que moi je trouve que les syndicats, ce qui ne devrait pas avoir lieu, c'est qu'ils sont financés par l'État. Et du moment où vous êtes financé, vous devez aller dans le sens de l'Europe.
Il y a un conflit d'intérêts. Vous prenez des positions radicalement anti-européennes et souverainistes, hein, on va le dire ouvertement.
J'ai été proche de tous les souverainistes de France. D'accord. Moi, j'aimerais qu'on puisse réunir toute la France profonde, les commerçants, les artisans, les boulangers, les agriculteurs, tout ce qui a fait la France, et dire stop aux importations, qu'est-ce que les consommateurs veulent consommer, et on essaye de trouver une solution tous ensemble. Au lieu de faire comme aujourd'hui, d'un côté la CR, l'autre côté mes soutiens, on est mal à l'aise là. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est de suite méchant, je vous dis, j'ai rendu service aux gens. parce que je l'ai vécu au plus profond de mon âme.
Mais je comprends d'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai passé l'après-midi à discuter avec des gens, j'ai posé des questions, j'ai écouté des conversations, et il y a des lanceurs d'alerte qui disent « Mais vous vous rendez pas compte, si demain il y a un problème d'approvisionnement, nous ne sommes plus capables d'alimenter la population ». Nous ne sommes plus capables de fournir l'alimentation. D'accord, mais expliquez-nous un peu cette chose-là. Je ne suis pas sûr que les gens ont compris vraiment ce qui est en train de se passer.
C'est pour ça que je suis beaucoup suivi, parce que tout ce que je dis, je l'ai déjà dit en 2019, quand je m'étais présenté aux élections européennes sur la liste Alliance Jaune, parce que j'étais déjà gilet jaune. J'ai fait la grève du lait en 2009. Je ne suis pas né de la dernière pluie. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, je suis sur les réseaux, mais avant, j'ai fait beaucoup de travail de fond. Je l'ai dit tout ça.
S'il y a un problème et que les trains s'arrêtent, qu'on n'importe plus, nous, ici, on n'est plus capable d'alimenter la population. C'est
mais
ça.
Mais déjà, il y a des.
Disons-le.
En fruits et légumes, on importe 60% de fruits et légumes en France, on importe 70% de volailles et on importe à peu près 80% de moutons de Nouvelle-Zélande. D'accord. Parce qu'on a tué des filières.
Si l'importation s'arrête parce qu'il y a un problème, c'est Covid et autres,
mais on est fini, on est mort.
C'est la catastrophe.
On est dans une guerre de civilisation par rapport à la souveraineté alimentaire. Et ce qui est scandaleux, c'est que l'État, Macron, il a rebaptisé le ministère de l'Agriculture ministère de la souveraineté alimentaire, alors qu'il passe son temps à tuer des branches entières d'agriculture avec la DNC, avec la tuberculose. Moi, il me pousse à arrêter de faire du lait pour faire de la méthanisation. C'est-à-dire que mes cultures, je les mets dans une cocotte minute pour fabriquer du biogaz qui va faire de l'électricité. Ça, c'est l'agriculture de demain. Et je me bats énormément. Et j'aurais pu faire ça en 2018.
On peut comprendre. L'éthanol et autres, ça peut être logique. Mais ne plus être capable de soutenir notre propre population s'il y a un problème, ça me paraît comme quelque chose, un point crucial et important.
Eh bien, on fait partie du pays de tiers-monde. Quand on n'est plus capable de nourrir sa population,
on n'est pas l'Angleterre. Nous, on a la place. On pourrait le faire, nous.
Avant, c'est très simple. Pourquoi vous me dites que je suis un souverainiste, je suis contre l'Europe? Parce qu'avant de rentrer dans l'Europe, la France, on était le premier pays agricole européen, le deuxième mondial derrière les USA. Aujourd'hui, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, tout le monde nous double. On n'a rien plus en France. C'est quand même grave, la situation. Okay. Il ne nous reste que les yeux pour pleurer.
François, Maître François Langléan, moi, je vous vois intervenir auprès de beaucoup de personnes différentes et autres. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé vous occuper de Serge Deschamps et de Sébastien Béraud? Pourquoi est-ce que c'est vous qu'on trouve à cet endroit-là?
Peut-être parce que je fais correctement le travail pour les défendre. Ils sont poursuivis dans des procédures bâillons, hein, des procédures abusives. Le procureur les accuse abusivement, les poursuit abusivement.
Vous sentez l'aspect politique dans cette
Bien sûr, ça, c'est tout. Ils se tiennent tous les coudes, le préfet, le président de la Chambre d'agriculture et tout cet équipage. Hein, et le préfet, le procureur les poursuit, Sébastien Béraud, pour des infractions qui pour lesquelles il n'y a pas de plainte. Voilà, c'est tout. Et le procureur ne peut pas poursuivre d'office. Il faut que chaque personne qui souhaite dépose plainte. Et encore, il faut rédiger les plaintes dans un certain cadre juridique. Il n'y a pas de plainte. Donc, on ne peut pas les poursuivre. Sébastien Béraud est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour 3 infractions pour injure, une infraction pour injure, 2 infractions pour diffamation. C'est pas sérieux, hein, le procureur de la République, son travail, sa fonction, il est payé pour requérir l'application de la loi, pas pour fabriquer sa petite loi et pour faire son jeu personnel. C'est inadmissible.
Bon. Serge Deschamps, vous allez rebondir, vous allez trouver une solution, qu'est-ce qui se profile? Vous avez peut-être quelque chose qui se met, qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Alors, au vu de la conjoncture actuelle et au vu de la configuration de mes parcelles, je me dois continuer dans l'élevage.
D'accord.
De plus, mes parcelles, ma ferme est dans un lieu isolé par rapport à d'autres élevages.
D'accord. Donc vous allez continuer à être éleveur, vous allez rebondir, vous avez trouvé une solution, vous allez pouvoir continuer?
Oui. Je me suis transporté au sommet de l'élevage à Cournon d'Auvergne, où j'ai rencontré des éleveurs et je vais intégrer de nouvelles vaches quand le moment sera...
Bon, j'espère que tout se passera bien. Sébastien Béraud, en une minute, le mot de la fin, une conclusion?
Ben déjà, je tiens vraiment à remercier M. Maître d'Angléan, parce que je pense que c'est le meilleur avocat en diffamation de France. J'ai eu une chance inouïe l'année dernière, c'est que j'ai fait un rassemblement des patriotes français. Il est venu à mon rassemblement, donc il sent quelque chose en moi, cette fibre de la souveraineté, le patriotisme. Et puis, comment ne pas oublier la centaine de personnes qui sont venues me soutenir de toute la France cet après-midi. C'était juste incroyable. Malheureusement, à contre-cœur, j'ai dû choisir 12 personnes parce que le tribunal était en capacité réduite. C'était un crève-cœur. Moi, aujourd'hui, vous savez, il y a des moments qui marquent dans la vie. Moi, il y a eu mon mariage et deux naissances. Aujourd'hui, c'est un moment important de ma vie parce que j'ai compris que je dérangeais beaucoup sur les réseaux, ils m'ont fait comprendre, et je sais que j'ai beaucoup de soutien et qu'il faut que je continue tant que je peux, et je vais continuer.
Sébastien Béraud, Serge Deschamps, Maître François Langléan, merci beaucoup. La suite des programmes sur RLP. Merci, au revoir.
RLP. Radio Libre en Périgord.